Bonjour à tous. Alors on va un petit peu se réveiller. Vous savez ce que c'est qu'un high five en anglais ? Hein ? Voilà, faites ça à votre voisin, un petit check comme ça. Très simplement. Voilà, ça c'est un peu le bonjour simple des jeunes. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas. Donc on est là avec ma femme Nadège. On a grandi dans cette église, enfin surtout moi, c'était venu un peu après. Mais j'ai 28, bientôt 29 ans, donc ça fait 28, bientôt 29 ans que je viens dans cette église. Et on est parti il y a à peu près un an commencer une école biblique au Québec. On est là depuis presque 3 mois maintenant. Et pour moi, c'est toujours un honneur de pouvoir apporter la parole, de me tenir là derrière. Et c'est aussi une responsabilité. Et je prends ça vraiment très au sérieux. Je suis très honoré de pouvoir être là. La dernière fois, c'était au groupe de jeunes la semaine passée. Et avant ça, c'était il y a 2 semaines, ici, un dimanche soir. Alors ce matin, je viens avec un message qui va peut-être pas beaucoup vous plaire. J'avertis, hein, c'est toujours mieux. Je pourrais appeler ça le message sparadrap. Vous savez, on déteste les enlever, mais quand on l'a enlevé, on est quand même content de l'avoir enlevé, de voir que la blessure va mieux, que c'est peut-être guéri, qu'il reste un petit quelque chose, mais on est content. Et je me souviens quand j'étais petit, une fois, il fallait enlever un sparadrap, je me blessais tout le temps au genou. Et ma grand-mère me disait, ok, vous savez, il y a 2 techniques pour enlever les sparadraps. Hein. Une où on tire doucement, là, pendant 10 minutes, ça fait mal. Et une autre où on tire d'un coup, et ça fait mal pendant 10 minutes. Ma grand-mère me dit, je compte jusqu'à 3 et puis je te l'enlève. Donc elle commence à compter. 1, schlac. Ah d'accord, merci. Ça m'a fait mal, mais j'étais content de voir le résultat à la fin. Ce matin, ce message s'adresse autant à vous qu'à moi, évidemment. Et c'est un message assez défiant. Et j'espère que beaucoup de décisions vont se prendre ce matin. On va laisser Dieu, en fait, poser son doigt sur nos vies, sur nos cœurs, dans des zones d'ombre. Dans des choses peut-être cachées, secrètes, qui sont là, mais qui doivent être exposées, qui doivent être mises à la lumière, finalement. Et si je devais donner un titre à ce message, j'appellerais ça « Nu et sans honte », en référence à Adam et Ève. Et si j'utilise ce titre, je dois dire d'où il vient, parce qu'il ne vient pas de moi. Il vient d'un des professeurs qu'on a à l'école biblique, qui s'appelle Daniel Descaries, qui est responsable de la relation d'aide à l'église Nouvelle Vie, là où on va. Et « Nu et sans honte », il a fait une conférence à laquelle je n'ai pas assisté parce que c'est avant que nous on arrive au Québec. Mais on en a parlé un peu lui et moi et ça correspond exactement à ce que Dieu veut nous parler ce matin, nu et sans honte par rapport à Adam et Ève. On va regarder ça un peu après, et j'en ai parlé rapidement au groupe de jeunes la semaine passée. Mais j'étais vraiment conduit à faire un message plus complet, entier, juste sur cette thématique de mettre nos vies en lumière, d'exposer des choses qui sont dans nos vies. Et Dieu nous appelle à une liberté. À vivre la vraie liberté. Dans Galates 5.5, hein, il est dit, c'est pour la liberté que je vous ai libéré. Ça m'a souvent fait sourire un peu. Je me suis dit, oui, pourquoi d'autre ? C'est comme si je vous dis, je vous donne un vélo, c'est pour faire du vélo. Oui, je ne veux pas faire de la cuisine avec un vélo. Et c'est pour la liberté que Dieu nous a libéré. Et s'il le précise, il le dit juste après, c'est pour ne pas nous remettre sous le joug de l'esclavage. Et pourtant, combien de fois on se remet sous le joug de l'esclavage ? Combien de fois, par moment, par période, pour un péché, on se remet sous l'esclavage de la chair et du péché ? Et Dieu nous appelle à cette vraie liberté. La liberté, c'est un choix. Vous savez, je crois qu'on ne peut jamais être libre en disant « j'attends et on verra bien si je suis libre ». C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un choix, c'est volontaire, c'est intentionnel. La liberté de quoi ? Du péché. La Bible nous parle du péché, de la sainteté. Souvent, en parlant du péché, on parle des ténèbres, de ce qui est sombre. Et puis de la sainteté, de la lumière de Dieu. Et dans tout le livre des Lévitiques, un livre qui n'est pas forcément facile à lire, mais je vous encourage à le faire, Dieu donne à Moïse toute une liste en fait, de choses de ce qui est pur et impur. Et dans tout le livre des Lévitiques, une phrase revient très régulièrement comme un commandement de la part de Dieu qu'ensuite Moïse doit transmettre au peuple. Et Dieu dit très très régulièrement dans ce livre, « Soyez saints car je suis saint ». Et Dieu nous appelle à cette sainteté, même Pierre le reprend dans le Nouveau Testament, il reprend ce commandement, « Soyez saints car je suis saint ». Dieu nous appelle à cette sainteté, à être en lumière, à vivre dans la liberté. Qui a envie de vivre cette liberté ? Qui a envie d'être comme Jésus ? Qui est déjà comme Jésus, par la foi, oui. Il y a du chemin jusque-là, mais par la foi, oui, c'est vrai, quelque part. Après la conversion, il y a la sanctification, on est d'accord. Et c'est sur ce chemin de sanctification que j'aimerais nous emmener un peu ce matin. Nus et sans honte. Adam et Ève étaient nus et sans honte. Ils étaient nus, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Il n'y avait aucun problème. Imaginez-vous, aucun péché. Le mal n'existait pas. Il n'y avait pas de dispute dans le couple. Il n'y avait pas de problème relationnel, il n'y avait pas de problème de demander pardon à Dieu parce qu'il n'y avait rien à demander pardon. Ils étaient nus et sans honte, le mal n'existait pas. La possibilité de faire le mal existait avec l'arbre qui était défendu, donnant la liberté à l'homme. Mais le mal n'existait pas, vous vous rendez compte ? Ça, c'est une liberté totale. Une liberté totale, totale. Être nu devant Dieu et sans honte, rien avoir à se reprocher. Et ça, c'est le plan de Dieu pour l'être humain. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Donc on va regarder, premièrement, qu'il nous faut mettre nos vies en lumière, qu'il faut vivre dans la lumière et être une lumière. Et que ces trois choses sont liées les unes aux autres. Donc le plan de Dieu pour l'être humain. Dieu crée l'homme et la femme, et puis il crée le jardin. Super, bel environnement, ça fonctionne bien. C'est ce que Dieu voulait au commencement, au tout début, c'est ce qu'il voulait. C'était son plan de départ, jusqu'à ce que l'homme et la femme pêchent. Mais au début, c'était ça l'idée. Et j'aime beaucoup imaginer, je ne sais pas vous, que quand Jésus reviendra, quand on sera au ciel, on sera comme dans un jardin de nouveau, sans larmes, sans cris, sans pleurs, qu'il n'y aura plus de péché, comme Adam et Ève au début. En fait, on va retourner au plan de Dieu. On va retourner à ce que Dieu avait prévu. Mais entre les deux, si on veut vivre ce plan-là, on doit exposer nos vies à la lumière. On doit se démasquer. Comme Paul le dit, discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt, dévoilez. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Tout ce qui est ténèbre dans nos vies, dès qu'on l'expose, tout ce qui est noir, sale, honteux, dès qu'on l'expose, c'est de la lumière. Et c'est libéré de nos vies. Paul nous encourage à vivre comme des enfants de lumière en démasquant les œuvres stériles des ténèbres. Et tout comme Dieu, il n'a pas forcé Adam de sortir de sa cachette, il ne nous force pas non plus. Vous savez, je me pose beaucoup de questions sur le comportement de Dieu. La Bible est très très intéressante, très riche. Et au moment où Adam et Ève, ils ont péché, qu'est-ce qui se passe? Ils se cachent, ils se mettent dans les ténèbres, ils se cachent loin de la face de Dieu, comme si Dieu ne pouvait pas les voir. Ils se cachent, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, Adam, où es-tu? Mais Dieu, il ne savait pas où il était Adam. Bien sûr que si, qu'il savait. Bien sûr, il savait. Mais il lui pose la question, Adam, où es-tu? Parce qu'il nous appelle à sortir notre cachette. Il ne nous force jamais. Il ne va jamais nous dire, là, je vois un péché, là, maintenant. Soulever la branche et puis démasquer Adam. Non, Adam, où es-tu? Viens, je t'appelle à sortir ta cachette. Il nous appelle ce matin aussi à sortir des choses, peut-être des péchés ou des comportements. Je détaillerai un peu plus tard. Qu'est-ce que Adam a fait en sortant de sa cachette? Est-ce qu'il a dit, Seigneur, je te demande pardon? Non, il a dit, c'est la faute de la femme. Que tu m'as envoyé d'ailleurs, en passant. Donc, un doigt vers la femme, un doigt vers Dieu. Moi, non. Est-ce que ce comportement, vous le retrouvez un peu dans votre nature humaine? Un petit peu quand même, hein? On n'aime pas du tout exposer nos péchés. On n'aime pas du tout exposer ce qui est mauvais dans nos vies, ce qui est mal, ce dont on a honte. Et comme je l'avais dit au groupe de jeunes, imaginez, je prends quelqu'un au hasard ici, je fais un petit montage vidéo de tous vos péchés de la semaine et puis on le passe. Qui a envie? Personne. C'est sûr, on a honte, c'est douloureux. Il y a des blessures, il y a des défis, il y a des choses qu'on regrette, il y a des choses qu'on donne tellement d'énergie, tellement de temps à enfoncer dans notre vie, à oublier en espérant que ça remonte jamais, à enraciner, à enfermer à double tour dans certaines boîtes, des souffrances, des choses dont on a honte, des choses de notre passé, de avant peut-être qu'on soit chrétien. Mais Dieu appelle ces choses-là. Où es-tu? Où es-tu? Viens démasquer ces choses-là. Pour certaines choses, c'est facile. Les petits péchés, même s'il n'y a pas forcément de petits péchés, mais les petites choses quotidiennes. Choses qu'on, on demande pardon un peu tous les jours à Dieu pour certaines choses qu'on fait. Rarement se passe un jour où on ne pêche pas. Et dans nos relations, on peut demander pardon, avouer qu'on a tort. Mais il y a certaines choses qui sont des fois plus profondes. Et l'apôtre Jean nous explique que toute personne qui fait le mal, dans Jean 3, verset 20-21, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Pour certaines choses, on ne vient pas à la lumière. On déteste la lumière parce qu'elle vient éclairer des choses qu'on n'a pas du tout envie de montrer, que ce soit à Dieu ou à des gens. Un péché de longue date, une addiction secrète, un comportement qui n'honore pas Dieu. Des choses qu'on met devant nos yeux, des choses qu'on n'a juste pas envie de s'avouer que c'est mal et on se trouve toutes sortes d'excuses. On peut être animé par... On n'ose pas les avouer parce qu'on a peut-être juste peur d'être jugé, peur de décevoir, peur de trop souffrir. Mais peu importe ce qu'on doit payer, ça vaudra toujours plus la peine de payer le prix de l'exposer pour gagner cette liberté en Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu, à l'appel de la liberté. Pour vous donner un exemple, pendant cette année de cours, première année de cours à l'école biblique, on a eu un cours d'éthique. Donc on a eu plein de sujets très intéressants. Et puis, dans un des travaux qu'on devait faire, on devait choisir personnellement un sujet d'éthique. Et puis, comme on nous avait appris, formuler une éthique tirée de la Bible, une éthique chrétienne biblique. Donc, souvent, ben voilà, l'éthique, on est d'accord que c'est personnel. Et puis, il n'y a jamais de réponse, oui ou non, c'est bien ou c'est mal. J'ai choisi un sujet qui est le streaming. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le streaming, c'est... Bon, moi, je parle vraiment du streaming où on parle de films et de séries. Okay, le streaming le plus utilisé. C'est un outil sur Internet en fait, où on peut regarder simplement librement et gratuitement des films et des séries. Alors on ne paye pas les droits là-dessus, dans le sens où le film, peut-être un film vient sortir au cinéma, il n'est pas encore en DVD, puis il est directement accessible. Il y a des tonnes de contenus, des milliers, je pense des millions de contenus qui sont visionnables. C'est gratuit, un clic, ça suffit, il faut une connexion Internet. Et dans certains pays c'est légal, dans d'autres ça ne l'est pas. En Suisse ça l'est, il me semble. Donc moi j'étais un peu genre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on me dit que c'est mal, Et puis d'un autre côté, c'est légal, alors je ne sais pas trop. Et dans ma vie de chrétien, j'étais là, bon, j'utilisais énormément ça, énormément, des tonnes de films que je regardais et de séries. Et puis après, j'étais là, non, trop convaincu, ça ne va pas, je vais arrêter ça. Et puis j'arrêtais tout. Puis quelques temps après, je recommençais. Et là, venait ce cours-là d'éthique. Et j'ai choisi ce thème en me disant, je commence ce travail, mais je connais déjà la réponse. C'était juste une façon de mettre en lumière quelque chose. Et je vous avoue que ça ne m'a pas du tout arrangé d'avoir la réponse que je voulais, qui était de personnellement. Hein, je vous dis que pour moi, le streaming, c'est quelque chose qui n'honore pas Dieu. Alors, je l'ai dit, l'éthique, c'est personnel. Je ne dis pas que c'est ce que vous devriez faire. C'est ce que moi, je pense que c'est. Mais donc, moi, ça ne m'arrange pas parce que moi, j'aime bien regarder des films. C'est facile, c'est rapide. On n'a pas la télé avec Nad. Donc, du coup, ben, si on arrête le streaming, on n'a plus de divertissement. Ensuite, il faut trouver un budget pour acheter ou louer ou faire un abonnement. Je dis, mais moi, je ne veux pas arrêter le streaming. Pourquoi j'ai fait ça? Et je n'avais pas du tout envie. Mais je voulais tellement ressembler à Jésus. Je voulais tellement l'honorer dans tous mes choix, toutes mes décisions, que j'ai préféré faire ça. Peut-être un autre exemple un peu plus clair. Quand j'étais aussi plus jeune, j'étais un peu trop, on va dire, attaché aux consoles de jeux. Et je jouais des heures. Je pouvais jouer jusqu'à 2h, 3h du matin, presque tous les soirs, en cachette, évidemment. Mes parents ne devaient pas le savoir. Voilà, j'ai grandi un peu comme ça. Et... arrivé un moment où j'avais fini un peu tous mes jeux. Et là, j'avais un choix. Soit je rachetais un nouveau jeu et je disais au revoir à ma vie pendant 3 mois, soit je faisais un acte incroyable de sagesse et c'est ce que j'ai fait, j'ai vendu ma console de jeu. J'ai gagné une liberté, j'ai gagné du temps. Et c'était dur. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui est arrivé sur le marché? Les smartphones. Et comme j'ai dit aussi au groupe de jeunes la semaine passée, je pense que Apple devrait créer des toilettes, des high toilettes, tellement on peut passer de temps sur les toilettes avec ces machins, quoi. C'est pas possible. Il y a un problème. Alors que j'étais débarrassé de mon addiction au jeu, tranquillement ça revenait. Et puis un jeu ou deux. Et c'est fou, même cette année-là, cette addiction est comme revenue gentiment dans ma vie. Le matin, j'étais tellement sur ces jeux, tellement de temps, tellement d'énergie. Le matin, je me réveillais, je faisais ça. Le soir, je me couchais, je faisais ça. La journée, une pause, je faisais ça. Et j'étais à fond dedans, j'investissais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis quand Ad me disait, elle voulait mettre en lumière cette chose-là, moi je faisais comme Adam. Non, c'est pas vrai, je suis pas du tout... je peux arrêter quand je veux, vous connaissez cette phrase. Je peux arrêter quand je veux d'abord. Ouais, ça c'est la phrase de ceux qui ne peuvent pas arrêter quand ils veulent. C'était pas possible. Et puis moi je justifiais, je voulais pas du tout avouer, je voulais pas du tout mettre en lumière, je voulais pas du tout lâcher cette chose-là. Parce que j'y tenais, parce que je voulais. Mais j'étais attaché. J'étais attaché. Et c'était une période où, je me souviens étonnamment, je priais de manière tellement particulière et profonde sur « Seigneur, transforme-moi à ton image ». Chaque matin, tellement intensément, j'avais tellement à cœur de devenir comme lui dans mon comportement, dans mon amour pour les gens, dans ma façon d'être, de voir, d'encourager, de prier. Et puis, on avait eu un petit culte entre étudiants. On faisait ça une fois par semaine. Puis vous savez, c'est pas les grandes réunions de prière où on est 50, 100, 1000, je ne sais pas, avec une louange incroyable. C'est une petite louange, quelqu'un qui sait à moitié jouer de la guitare. Le truc où c'est pas facile de rentrer dedans, mais on pense que c'est bien parce que la prière est efficace. Mais c'est pas la louange où c'est facile de rentrer dedans. Dans cette louange, j'étais encore en mode, Seigneur, t'es tellement grand et bon, t'es tellement mon exemple, je veux tellement devenir comme toi. Et là, poc, il met le doigt. Il me dit, ouais, mais t'en es où avec tes jeux là sur ton iPhone? Et là, j'étais dans la présence de Dieu et j'ai dit, quoi? C'est comme si c'était devant mes yeux et que je pouvais plus reculer. Et je dis, là, Seigneur, c'est vrai. J'ai un choix devant moi. Soit cette ténèbre-là qui est dans ma vie, soit devenir plus comme toi et puis être un peu plus saint. La lumière ou les ténèbres, je devais choisir. Et C'était ma prière, c'était de choisir Dieu. J'ai pas négocié. Dans la louange, j'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé tous mes jeux. Et peut-être c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, c'était quelque chose de tellement profond et de dur. C'était un sacrifice. J'avais passé tellement de temps. C'est comme si vous passiez 6 mois à construire quelque chose, et puis une fois c'est construit, on détruit. Allez, c'est fini. Et c'était tellement douloureux. Et je pense que juste en parlant de ça, il y a déjà quelques comportements qui viennent dans votre tête. Quelque chose peut-être dans votre vie, quelque chose de profond, quelque chose qui, vous savez que ça n'a rien à faire dans votre vie. Peut-être vous savez déjà, peut-être ça vient dans votre tête, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, peut-être c'est quelque chose que vous ne voulez pas vous avouer. Ouais, quelque chose de vieux, avec quelqu'un, avec Dieu, quelque chose qui doit être mis en lumière. J'ai découvert que garder ces choses-là, c'est bien plus douloureux que de les exposer à Dieu. Parce que derrière, il faut assumer les conséquences. Assumer les conséquences de nos choix, de nos fautes, ça c'est douloureux. Mais c'est beaucoup moins douloureux que de les garder dans nos vies. Beaucoup moins douloureux que de rester dans une prison. Donc premièrement, on doit mettre nos vies en lumière pour répondre à cette liberté, pour trouver cette liberté et la réconciliation avec Dieu. Mettre nos vies en lumière. Et une fois qu'on fait ça, l'idée c'est de rester dans cette lumière, de vivre dans la lumière. Et c'est mon deuxième point, vivre dans la lumière. Dans 1 Jean 1, verset 5 à 7, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est lumière, aucune ténèbre en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Marchons dans la lumière. Alors, exposer nos vies à Dieu, mettre... Des fois, il y a des gros chantiers dans nos vies. Il y a des gros chantiers, il y a des grosses choses qu'on doit mettre en lumière et puis qu'on doit travailler, on est d'accord. Et c'est peut-être bien de le faire 2 fois par an, j'en sais rien, certaines choses qui doivent revenir, mais l'idée, c'est de marcher dans cette lumière. De ne pas laisser de nouveau quelque chose rentrer dans notre vie, ronger notre cœur, ronger notre quotidien. L'idée, c'est de marcher dans cette lumière, de marcher dans la vérité tout le temps. Tout le temps. Et ça, on peut le faire de 2 façons. Marcher dans la vérité, envers soi-même et envers les autres. Il s'agit d'être honnête avec soi-même, de ne pas justifier nos péchés ou excuser nos péchés, comme Adam. Ouais, c'est pas moi, c'est de sa faute ou de la tienne, Seigneur, mais c'est pas moi. Et on trouve des excuses et puis on s'accorde certains péchés, on s'accorde certaines limites. Comme j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je vais peut-être m'accorder 1/10 bout de chocolat. Ouais, déjà le 8e était peut-être de trop. De ne pas jouer avec le péché ou de ne pas le minimiser ou... Il s'agit aussi d'être peut-être intègre dans des choses qui sont des fois très dures, comme arrêter de pas payer le bus ou ne pas rouler au-dessus des limitations de vitesse. Je pense qu'en voiture, aïe, il y a du travail, les amis, dans la sanctification. Ces lois, elles sont là pour nous protéger, mais c'est fou comme on a du mal à être intègre. On a du mal à être intègre dans tout. Alors, on n'est pas encore comme Jésus. On est en chemin. Mais... L'idée, c'est ça, c'est d'essayer de marcher un maximum dans la lumière, d'être intègre, d'être dans la vérité, d'être honnête. Et moi, honnêtement avec vous, justement, moi, je me déplace beaucoup en vélo. Et je roule de manière très, très sécuritaire. Je vérifie tout le temps. Même quand c'est vert pour moi, je regarde tous les feux de tout le monde, les piétons, les voitures, de tous les carrefours, de tous les trucs. Je regarde tout partout parce que la carrosserie, c'est moi un vélo. Donc, faut faire attention. Mais en même temps, je sais qu'il y a des choses que je dois complètement changer. Je sais que des fois, les stops, je ne les fais pas. Certains feux rouges, je les grille aussi. Je fais très attention, toujours qu'il n'y ait personne, tout ça. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas bien et que je dois travailler dessus. Mais c'est quelque chose qui est là et que je veux changer au fond de moi et qu'il faut qu'il change. Mais je vais être honnête, longtemps, je me suis trouvé des excuses. Oui, mais si je pars plutôt au feu rouge, au moins les voitures ne me tracent pas comme ça et puis c'est moins dangereux. Il y a peut-être un peu de vrai, mais je m'en fiche. Moi, je veux vivre dans la vérité et dans l'intégrité. C'est ça l'idée. C'est dur, je vous avais dit que ce message n'allait pas vous plaire. Et il y a des choses, vous savez, des petites choses comme ça, des petites choses qu'on fait peut-être régulièrement. Pendant 1 mois, on a pu travailler, on a trouvé un job d'été pendant 1 mois à l'hôpital de la Tour. Et sans aucune compétence dans le domaine médical, donc gloire à Dieu et en même temps, j'espère que ça a été pour les patients. Et on avait des horaires assez décalés. Moi, on ne travaillait pas exactement dans le même service. À chaque fois que je devais partir, je devais noter mes horaires, à quelle heure je suis arrivé, à quelle heure je suis parti. Et... Vous savez, comme c'est facile de terminer à 16h05, puis de marquer écart, par exemple. Voire, c'est E8, puis on va mettre et demi. Et ouais, c'est fou. J'étais devant cette feuille, et je me suis dit, ben non. Je vis dans la vérité. Puis surtout, qu'est-ce que c'est quelques francs de plus, c'était rien du tout. Mais vous savez, on est tellement tenté comme ça, très souvent, de juste un tout petit peu tricher. Juste, c'est pas grand-chose. Mais je vais vous encourager à vivre dans la pleine lumière, à marcher dans la pleine vérité, dans la pleine intégrité. Tellement facile de tricher, ou tellement on n'aime pas du tout assumer qu'on a tort. Ouh là là, comme on n'aime pas ça. Qu'on a tort, et d'assumer nos erreurs. Pareil, là, moi je travaillais au bloc opératoire. Oui, c'est impressionnant, mais ça s'est bien passé. Je préparais des tables d'opération, et puis c'est spécifique à chaque opération. Et des fois, quelqu'un arrivait, une fois la chef arrive, qui c'est qui a fait ça et qui a préparé cette table, parce qu'elle était mal préparée. Et bah, des fois, moi je vais en pause, forcément, il faut que je mange dans la journée, et quelqu'un me remplaçait, préparait d'autres tables, etc. Et j'aurais juste pu rien dire, par exemple. Ou même dire, bah, c'est pas moi, ou je sais pas. Très très facile, elle m'aurait pas soupçonné, rien du tout. Très facile de juste passer à côté de l'erreur, aucun problème. Et ça, je pense qu'on le fait trop facilement dans notre travail quotidiennement. Et juste même rien dire pour pas mentir, vous savez. Ah, si je dis rien, je mens pas vu que j'ai rien dit. Mais je dis c'est moi, je suis désolé, je ferai attention. Bah, peut-être que je. Et puis oui, il faut assumer derrière. Regarde, avoir le regard de la directrice qui dit bon. Bah, fais gaffe la prochaine fois. Bon, en même temps, moi, je suis graphiste, je suis pas chirurgien, quoi. Mais il faut assumer. Et ça, c'est peut-être un petit truc, mais marcher dans la vérité, marcher dans la lumière en assumant. Vous savez, je crois que Dieu va tellement plus nous bénir dans ce qu'on doit assumer de nos erreurs que juste en mentant puis en essayant de faire par nous-mêmes puis en cachant les choses. Vivre dans la lumière, être transparent. Ça, c'est plus envers nous-mêmes, mais c'est aussi l'idée d'être transparent dans nos relations. Donc au travail peut-être un exemple, mais dans nos familles, avec votre mari, votre femme, avec vos enfants, avec vos parents peut-être, d'être totalement transparent. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on a fait avec Nad quelque part cette année, comme un pacte de transparence, où je lui ai donné en fait un droit de regard 100% dans ma vie, 100% de transparence dans ma vie. Elle peut poser, et aujourd'hui elle peut poser toutes les questions qu'elle veut, toutes les questions qu'elle veut dans ma vie, elle aura toutes les réponses et elle sait tout, il n'y a rien de ma vie qu'elle ne sait pas. Rien, rien, rien. Rien. Vous savez, il y en a qui mettent un code sur les téléphones. Et puis, ils ne le disent pas à leur femme. Moi, ça me fait un peu sourire. C'est pas très bien parti dans l'idée du mariage ou de la relation amoureuse. Mais il y a des choses qu'on ne veut pas dire ou qu'on cache. Des secrets ou des souffrances. Comme on ne veut pas les montrer à Dieu, des fois, on ne veut pas les montrer à nos enfants ou à nos parents ou à nos conjoints. Je vous encourage, là aussi, à vivre dans l'intégrité puis la vérité. La pleine lumière. Cacher des choses nous coûte plus cher que de les exposer. Et jouir de cette liberté en permanence, c'est le plan de Dieu. C'est ce qu'il veut pour nos vies. Et vous savez, c'est seulement, j'arrive à mon dernier point, c'est seulement en marchant dans la lumière qu'on pourra être une lumière. C'est seulement en recevant cette lumière qu'on peut être une lumière. Les résultats, ce n'est pas seulement pour notre avantage de jouir de cette liberté, c'est aussi pour les gens autour de nous. Vous savez, dans Exode 34, c'est ce passage où Moïse retourne sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. À la sortie d'Égypte, il monte, il descend, il les casse. Dommage. Et là, donc Dieu renvoie Moïse sur la montagne avec quelques précisions. Tu tailles deux pierres exactement comme ça, tu te lèves tôt, il n'y a personne sur la montagne, il n'y a que toi. Et donc, il passe 40 jours et 40 nuits à jeûner. Et donc, il parle avec Dieu. Et puis, Dieu lui dit, voici, je conclue moi-même une alliance avec toi. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Pour moi, ça, c'est être une lumière. Qui veut voir son quartier, sa ville, sa famille, ses collègues être transformés comme jamais on a encore vu ça? Qui veut voir ça? Qui veut pas seulement être témoin de ça, mais être l'acteur de ça? Un des versets les plus connus de la Bible, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». On a tous envie d'être une lumière, on a tous envie d'être... de briller dans ce qu'on fait. Et on essaye souvent par nous-mêmes, on essaye par toutes sortes de choses. Mais je pense que si nous-mêmes, on ne marche pas dans la lumière, ce sera très dur d'être une lumière. Je pense que ça commence par là. Je pense que ça commence vraiment par là. Et au verset 29, on voit Moïse descendu du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Quand on s'expose comme ça à Dieu, alors là, il nous dit, ok, je vais changer des choses avec toi. Tu vas être cette lumière. Et on parlait de plan de Dieu tout à l'heure. Et oui, être le sel de la terre, la lumière du monde. Dans Matthieu 5, on peut le lire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe non plus pour la mettre sous un seau. On la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Imaginez les maisons d'époque, hein, il n'y a pas d'électricité. Une lampe sous un seau, ça ne sert à rien. En hauteur, c'est mieux pour tout le monde, c'est sûr. Que de la même manière, au verset 16, que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Pas vos belles paroles, vos beaux témoignages, vos « Jésus t'aime » ou « Tu sais que Dieu a un plan pour toi ». Non, qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Je crois que c'est en étant intègre dans notre vie, en vivant dans la vérité, en assumant les conséquences de nos choix. Vous savez, ça, ce n'est pas quelque chose tellement d'humain. Ce n'est pas dans la nature humaine d'assumer nos choix, de dire « Oui, j'ai tort, je vais assumer ça », de marcher dans la vérité, d'être intègre. Ça, c'est à contre-courant, les amis. Mais si on fait ça, si on marche dans cette lumière, non seulement nous, on devient libres, non seulement nous, on se débarrasse des fardeaux, non seulement on jouit de cette liberté, mais en plus, cette liberté va rayonner dans notre quotidien, dans notre famille, peut-être dans nos familles qui ne sont pas chrétiens, dans notre travail, quand nous, on va être droit, que moi, je vais noter mes horaires en disant « Non, je ne vais pas rajouter 10 minutes de plus. » Et quelqu'un va dire « Mais vas-y, ça ne change rien. Pour moi, ça change quelque chose. » Sur la route, dans tout ce qu'on fait, à partir du moment où on va marcher dans cette lumière, là, on sera un témoignage. Là, on sera une lumière. Et les gens, plutôt d'avoir peur de Moïse qui brillait littéralement, ils vont être attirés par cette lumière. Ils vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette personne ? C'est un alien ? Non, non, c'est juste un chrétien. » Marcher dans la lumière, ça nous permet d'être une lumière. Que votre belle manière d'agir, qui voit votre belle manière d'agir. Le pécheur, naturellement, il déteste la lumière. Naturellement, ce n'est pas dans sa nature d'aimer la lumière. C'était le premier réflexe d'Adam. Combien de fois on se met sous cette prison? Prison des ténèbres. C'est tellement dur d'avouer des choses. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de quand vous étiez petit et qu'il fallait demander pardon. Qu'on pleurait un quart d'heure juste pour dire le mot « pardon ». On n'est plus des enfants, mais on est encore comme ça un peu aujourd'hui. Pour certaines choses, je vous prie vraiment de mettre en lumière ce matin. Je prie Dieu qu'on soit convaincus de mettre en lumière des gros morceaux, des moins gros morceaux. Mais c'est un appel à la liberté, à libérer de la prison. Je me réjouis tellement de vivre ce que Adam et Ève vivaient. Waouh, cette liberté. Cette insouciance, cette possibilité de vivre ça.